VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 15 avril 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, les titres.
En Guinée, l'heure est à l'apaisement après les manifestations qui ont fait au moins un mort et plusieurs blessés cette semaine à Conakry.
Le mouvement citoyen sénégalais Yanamar, plusieurs organisations de la société civile et Amnesty International ont décidé de mutualiser leurs forces pour exiger des autorités de Kinshasa la libération des militants arrêtés en mars dernier.
Les ex-présidents centrafricains François Bozizé et Michel Djotodia, longtemps accusés de saper la transition dans leur pays, s'engagent dans une déclaration signée hier à Nairobi à rejoindre le processus de réconciliation.
Ici à Washington, la Commission sénatoriale des affaires étrangères a adopté hier un texte de compromis qui donnerait au Congrès un droit de regard en cas d'accord final sur le nucléaire iranien.
Le président Barack Obama annonce son intention de retirer Cuba de la liste des États qui soutiennent le terrorisme.
Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. En Guinée, l'heure est à l'apaisement après deux jours de manifestations de partisans de l'opposition. Manifestations qui ont été sévèrement réprimées. Henri Francisque.
Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a appelé au dialogue pour parvenir à un consensus autour des échéances électorales. Réagissant à cet appel au dialogue, c'est Lourdes Alain Diallo, chef de file de l'opposition, demande d'abord que la Commission électorale nationale indépendante annule son chronogramme électoral et mette fin à ses activités sur le terrain. Monsieur Selou Dalein Diallo a annoncé la suspension des manifestations jusqu'à lundi pour permettre à ses partisans de souffler un peu. L'opposition avait appelé à manifester contre l'insécurité après l'agression de son porte-parole le 4 avril et contre l'inversion du calendrier électoral par la CENI qui a repoussé les élections locales à mars 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre à Conakry ont fait au moins un mort et plusieurs blessés.
Au Burkina Faso, trois anciens ministres de Blaise Compaoré, interpellés pour des malversations présumées, ont été remis en liberté, mais un quatrième a été placé en détention à Ouagadougou. L'ancien premier ministre Paramanga Ernest Yonli, l'ex-ministre de l'Intérieur Jérôme Bougouma et Jean-Bertin Ouédraogo, qui étaient au transport, ont été remis en liberté. Le parquet de Ouagadougou s'est dit incompétent car ses affaires devraient relever de la Haute Cour de justice et cette instance n'a pas repris son activité depuis la chute de Blaise Compaoré.
Seul l'ancien ministre des Mines, Salif Kabore, a été déféré pour des malversations présumées pendant qu'il était à la tête de la société burkinabé d'électricité. Monsieur Kabore est réputé proche de François Compaoré, le frère cadet du président déchu. Depuis 10 jours, une quinzaine de cadres de l'ancien régime ont été interpellés. Un nouveau code électoral est aussi entré en vigueur. Il exclut des prochaines élections certains proches de l'ancien président. Ainsi, le CDP, ancien parti au pouvoir, a annoncé qu'il est entré en résistance contre cette politique dite répressive.
Le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique est passé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Bangui s'apprête à tenir, à partir du 27 avril, un forum de réconciliation. Et d'ailleurs, hier, l'ancien président François Bozizé et son tombeur, Michel Djotodia, se sont retrouvés pour la première fois à Nairobi pour apporter leur soutien à ce forum. Concernant son passage à New York, écoutons le général Babacar Gaye, chef de la mission onusienne en Centrafrique.
Vous savez, j'étais venu devant le Conseil de sécurité présenter le rapport du secrétaire général, notamment dans la perspective du renouvellement du mandat de notre mission, la MINUSCA. Et cette occasion, bien sûr, je l'ai utilisée pour appeler l'attention des membres du Conseil sur d'abord les besoins pour compléter l'appel humanitaire qui a été fait en décembre pour la Centrafrique, mais également pour compléter le budget des élections qui manque à peu près à hauteur d'un peu plus de 20 millions de dollars et également demander à ce qu'on se tienne prêt à financer le programme de désarmement, de démobilisation, qui sera certainement un des accords signés lors du forum de Bangui. Donc je suis venu exposer ce que nous avions fait et surtout demander à ce qu'on nous aide à aller de l'avant.
Un citoyen belge accusé de viol sur deux filles congolaises de 11 et 13 ans en République démocratique du Congo a été condamné à 20 ans de prison à Kinshasa, a appris hier l'AFP auprès de l'avocat des victimes. Septuagénaire Jacques-Francis Belize, dont le procès s'était ouvert en mars, a été condamné lundi à un total de 20 ans de prison et a payé des dommages de 15 000 $ pour chacune des victimes, a indiqué à l'AFP maître Petros Mutamba, avocat des victimes.
L'Empire State Building à New York s'est illuminé hier soir de rouge et violet en l'honneur des 219 lycéennes toujours portées disparues sur les 276 enlevées il y a un an au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Veillée à la bougie, prières et rassemblements ont eu lieu hier au Nigeria et dans le monde pour marquer le premier anniversaire de cet enlèvement dans un lycée de Chibok, petite ville du nord-est du Nigeria.
Cet enlèvement a suscité une émotion internationale, mais c'est loin d'être le seul crime de ce type commis par Boko Haram, a rappelé Amnesty International, qui signale qu'au moins 2000 femmes et fillettes ont été enlevées au Nigeria depuis le début de l'année dernière. À Abuja, la capitale du Nigeria, le mouvement Bring Back Our Girls se réunit quotidiennement depuis un an pour réclamer la libération des adolescentes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, la Commission sénatoriale des affaires étrangères a adopté hier un texte de compromis qui donnerait au Congrès un droit de regard sur tout accord final sur le nucléaire iranien. Il pourrait ainsi passer en revue et éventuellement voter son approbation ou son rejet. Cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des membres républicains et démocrates de la Commission.
Le Sénat tout entier et la Chambre des représentants doivent maintenant approuver cette proposition avant qu'elle ne soit soumise au président qui devrait la signer selon la Maison-Blanche. Au terme de ce compromis, la période pour passer en revue l'accord serait réduite de 60 à 30 jours et le président devrait certifier que l'Iran respecte ses engagements tous les 90 jours. Les sanctions adoptées par le Congrès seraient immédiatement réimposées si l'Iran venait à violer l'accord. L'Iran, les États-Unis et les autres puissances du P5+1 ont jusqu'au 30 juin pour parvenir à un accord définitif sur le nucléaire iranien.
Toujours à Washington, le président Barack Obama a annoncé son intention de retirer Cuba de la liste des États qui soutiennent le terrorisme dans le cadre de ses efforts pour normaliser les relations avec la Havane après une rupture de 5 décennies. M. Obama a fait part au Congrès des conclusions du Département d'État américain selon lesquelles Cuba n'a fourni aucun soutien au terrorisme international ces 6 derniers mois et a donné à Washington des assurances que la Havane n'a aucune intention de le faire à l'avenir.
Cette décision du président Obama intervient quelques jours seulement après sa rencontre historique au Panama avec son homologue cubain Raúl Castro. Cuba avait fait de son retrait de la liste un préalable, ce qui a causé des retards dans le processus de normalisation entre les deux pays qui veulent ouvrir des ambassades dans les deux capitales. Ce retrait de la liste aussi pourrait aider la Havane à obtenir de nouveaux investissements sur les marchés internationaux.
Les États-Unis apporteront une nouvelle aide humanitaire de 205 millions de dollars à l'Irak, a promis le président Obama hier au Premier ministre Haider al-Abadi. Toutefois, il n'a pas été question, publiquement tout au moins, du soutien militaire que souhaitait le chef du gouvernement irakien. Les précisions de Lionel Gaïma.
À l'issue des entretiens avec M. Haider al-Abadi à la Maison-Blanche, le président Obama a déclaré que les forces irakiennes sont mieux équipées et mieux formées qu'au moment de l'élection il y a 7 mois du premier ministre Abadi. Avec l'appui aérien des États-Unis, ces troupes ont reconquis environ un quart du territoire occupé l'année dernière par les combattants du groupe État islamique, a ajouté le leader américain. À la question de savoir si les États-Unis fourniront une aide militaire additionnelle à l'Irak, le président Obama s'est limité à dire que la coordination militaire entre les États-Unis et l'Irak s'améliore dans le but de permettre à l'armée irakienne de connaître du succès sur le terrain. Les deux leaders ont aussi discuté de l'implication de l'Iran dans la lutte contre les militants du groupe État islamique. Washington s'attend à ce que l'Iran et l'Irak, en tant que pays voisins, aient des relations étendues, mais toute opération militaire en territoire irakien doit être contrôlée par Bagdad, a souligné le président Obama.
Et maintenant, la Minute Éco avec Félix Yepassi Zembro.
L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, est secouée par une crise sans précédent depuis novembre 2014. Et cette situation fait planer le doute sur la production de l'année 2015. Les dissidents accusent l'actuel président de l'Union, Karim Traoré, de détournement de fonds et de pillage organisé en complicité avec d'autres acteurs de la filière à des fins personnelles. Pour le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale est encourageante. L'Europe et le Japon montrant notamment des signes de reprise. Le FMI estime que le gros problème qui mine l'économie africaine est le manque d'énergie. Isabelle Adenauer est la chef de division adjointe du département Afrique au sein du FMI.
Vraiment, la capacité de production en Afrique aujourd'hui d'énergie ne s'est pas augmenté depuis 15 ans. C'est au même niveau aujourd'hui du niveau de l'Espagne.
Le Cameroun, à travers le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC, vient de lancer une initiative visant la promotion du café fabriqué au Cameroun en impliquant particulièrement les femmes dans les activités de promotion et de vulgarisation du label café du Cameroun. Dans cette perspective, le CICC annonce la tenue du 18 au 21 avril 2015 dans les localités de Douala et Melang dans le littoral et Koutaba et Foumbambe à l'ouest, des voyages d'échange entre les femmes gabonaises et camerounaises œuvrant dans la filière café.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Idrissa.
En Europe, quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, défaite 1-0 de l'AS Monaco sur le terrain de la Juve en Italie. Le but italien a été l'œuvre d'Arturo Vidal sur pénalty à la 57e minute. Match nul dans le derby madrilène entre l'Atlético et le Real.
Et suite de ces quarts ce soir?
Oui, ce mercredi entreront en scène les quatre autres quarts de finalistes. Paris Saint-Germain et le Barça, deux clubs qui se sont déjà affrontés en poule, et la confrontation entre le Porto et le Bayern. Les Allemands partent bien sûr aux grands favoris.
Des nouvelles du football au Bénin?
Oui, le ministre des Sports au Béninois a procédé ce mardi à l'installation officielle du comité de réunification et d'orientation nouvelle du football. Plus de précisions avec notre correspondant sportif Élisée Mpatine.
C'est la salle de conférence du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de Cotonou qui a servi de cadre pour l'installation de cette nouvelle structure mise en place le 8 avril dernier par le ministre des Sports Safiou Afo. Ce comité composé de 7 membres est présidé par Jérôme Kalos que nous écoutons.
La tâche sera difficile. On ne saurait surestimer ses capacités. Mais elle n'est pas impossible parce que nous avons des certitudes pour dire que ce sont des Béninois qui peuvent valablement se pencher sur les problèmes du Bénin et y apporter des solutions heureuses.
Et il aura pour rôle la réorganisation du football béninois, l'organisation d'un grand forum regroupant tous les acteurs en vue d'adopter les nouvelles orientations et de sceller la réunification de la famille du football au Bénin. Il dispose donc de 3 mois pour accomplir cette mission. À noter que ce comité peut faire appel à des personnes ressources dans l'accomplissement de sa mission en cas de nécessité. Boycon, Élisée Mpati, La Voix de l'Amérique.
En RDC, au Tata Raphaël, ce sera désormais à huis clos.
Oui, la Ligue nationale de football congolaise a décrété un huis clos jusqu'à nouvel ordre pour les matchs de football au stade Tata Raphaël. Cette décision fait suite aux incidents qui ont témoigné ce week-end. Les rencontres Charco 11 au TP Mazembe et DC Motema Pembe Sanga Balende. Des sanctions devront également être prononcées contre le club fautif à l'issue de l'examen des rapports des officiels. Et puis pour terminer, Idrissa, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Boston bat Toronto 95-93, Washington 95, perd face à Indiana 99 après 2 prolongations.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina, l'ambassadeur des États-Unis, Tuli Nabo Salama Mushengi, a déclaré lundi à Ouagadougou que tous les courants politiques doivent participer aux élections en octobre. Le nouveau code électoral promulgué vendredi exclut de ces élections certains proches du président déchu Blaise Compaoré. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Alexandre Sankara, député au Parlement de transition.
Il faut que l'ambassadeur sache qu'on n'a pas voté une loi pour exclure les gens. Tous les partis peuvent participer aux élections. La loi vise des personnes qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37. C'est assez clair. Et au sein du CDP, il n'y a pas que ceux qui ont soutenu le projet. Le CDP peut trouver des gens pour se présenter aux prochaines élections. Tous les partis peuvent participer aux élections. La loi vise les individus qui ont apporté leur soutien moral, financier, tout au projet de modification de l'article 37. Deuxièmement, je crois que l'ambassadeur des États-Unis doit respecter aussi le choix du peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé, à travers ce que le peuple a envoyé au Conseil national de transition, après l'insurrection populaire qui a conduit à la fuite de Blaise Compaoré. Ce sont les représentants de ce peuple-là qui ont voté la loi. Il faut respecter le peuple burkinabé, il faut respecter ce que les représentants du peuple ont voté comme loi. C'est élémentaire. Je n'imagine pas qu'un ambassadeur burkinabé puisse aux États-Unis dire comment une loi doit être votée et comment elle doit être appliquée.
Et pourtant, lorsque les États-Unis avaient pris position contre la modification de l'article 37, vous aviez applaudi.
Oui, on a applaudi, mais nous n'avons pas demandé aux Américains de nous dire comment nous devrons régler notre question. Nous avons applaudi parce qu'ils ont pris une position pour dire qu'il faut respecter la Constitution. Donc nous avons applaudi, mais nous n'avons pas demandé d'aller au-delà. Nous n'avons pas demandé de nous dire comment nous devrons chasser Blaise, comment nous devrons régler notre problème de l'article 37. C'est la même chose cette fois-ci aussi. Nous ne les demandons pas de se mêler de nos affaires intérieures jusqu'à nous dire comment nous devrons voter les lois, comment nous devrons appliquer nos lois. Ça relève de la souveraineté du peuple burkinabé et ce n'est pas négociable à mon avis.
Souveraineté, oui, mais c'est Washington qui donne l'argent pour le scrutin, non?
Oui, mais c'est ça le problème de nos États africains. Tant que nous allons continuer à prendre la main, on est en position de faiblesse. Mais je veux dire que ce n'est pas parce que aussi les Américains ou les autres pays occidentaux nous apportent de l'assistance qu'ils doivent exiger des choses qui ne sont pas négociables. On ne peut pas dire à un pays de ne pas voter les lois. On ne peut pas dire à un pays comment, dans quelle direction il doit mener son processus démocratique, son processus électoral. Non. Maintenant, c'est au Burkinabé de décider justement si nous voulons continuer à prendre la main ou si nous voulons compter sur nos propres forces, comme le président Thomas Sankara l'a toujours réclamé, l'a toujours voulu. Nous ne devrons plus continuer à prendre la main et à conditionner l'aide des Occidentaux par une quelconque marchandage de notre souveraineté. Ça, c'est inacceptable.
Alexandre Sankara, du Parti de l'Unité, est membre du Parlement de transition au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Alex, donc maintenant nous passons au Sénégal. Le mouvement citoyen Yanamar, plusieurs organisations de la société civile et Amnesty International ont décidé de mutualiser leurs forces afin d'exiger des autorités de la RDC la libération des militants arrêtés en mars dernier. Une pétition et des manifestations sont prévues dans plusieurs pays africains. Claire Morin-Gibourg a joint Seydi Gassama, le directeur d'Amnesty International Sénégal.
Les Congolais sont toujours en détention au secret, sans avoir été inculpés formellement et présentés en juge, et sans qu'ils aient un avocat ni que leurs parents aient accès à eux. Évidemment, c'est une détention illégale, une détention au secret, contraire à la loi congolaise et contraire au droit international. Donc nous voulons mobiliser les opinions publiques en Afrique d'abord, mais aussi dans les principales capitales du monde, y compris Washington, pour exiger le 30, leur libération, pour mobiliser et informer les opinions publiques sur la pratique répressive politique du régime congolais qui est destinée à réduire au silence toutes les voix qui s'élèvent contre une modification de la Constitution afin de permettre au président Kabila de rester au pouvoir 20 années de plus. Parce que après 20 ans de pouvoir Kabila père, Kabila fils, il veut modifier aujourd'hui la Constitution pour encore s'éteindre au pouvoir. Et pour cela, il veut réduire ses zones au silence.
Le fait que plusieurs pays africains s'impliquent pour la libération d'activistes, c'est un phénomène nouveau en Afrique.
C'est un phénomène nouveau à la dimension même du mouvement pro-démocratie porté essentiellement par les jeunes. C'est un phénomène qui, évidemment, est pris avec beaucoup d'enthousiasme par les peuples africains, mais qui également est un phénomène extrêmement inquiétant pour les dirigeants africains. Ce qui s'est passé au Sénégal en 2012 et ce qui s'est passé au Burkina il y a quelques mois pourrait très bien se passer au Congo si ce mouvement, en l'occurrence Filimbi, n'est pas réprimé. C'est pour cela que pour nous, il est important de se mobiliser pour que ces jeunes soient libérés, pour que l'espoir d'une véritable démocratie en Afrique, qui est née au Sénégal en 2012 et qui a pris naissance au Burkina il y a quelques mois, puisse également voir le jour au Congo Brazzaville, au Burundi et dans d'autres pays où des chefs d'État ont des velléités de modification des constitutions pour pouvoir s'éterniser au pouvoir.
Est-ce que ça veut dire qu'enfin on a une jeunesse africaine consciente et soucieuse des principes démocratiques de leur pays ?
Absolument. Une nouvelle conscience au sein de la jeunesse africaine, et une jeunesse qui ne veut plus considérer la dictature comme une fatalité, mais qui est prête à l'affronter pour qu'en Afrique, on ne soit plus un continent où on parle de coup d'État, où on parle de violence et de guerre civile, mais un continent où on puisse parler de démocratie véritable, de bonne gouvernance, de paix et de développement.
Sidi Kassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Nouvelle étape vers la paix en République centrafricaine. Les ex-présidents de la RCA, François Bozizé et Michel Djotodia, s'engagent à rejoindre le processus de réconciliation. Longtemps accusés de saper la transition dans leur pays, ils ont signé une déclaration allant dans ce sens hier à Nairobi, la capitale du Kenya. Pour nous en parler, Idriss Fall a joint à Nairobi Mustapha Sabone, le coordonnateur politique de la CELECA.
Oui, ils sont bel et bien à Nairobi. Naturellement, c'est pour appuyer le forum inclusif de Bangui, appuyer en même temps l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville.
Est-ce que les deux anciens chefs d'État ont paraphé quelque chose, ont signé quelque chose ?
Exactement, ils ont signé la déclaration. Et le président Uhuru Kenyatta du Kenya aussi a signé. Ils apportent leur soutien, leur appui aux accords de Brazzaville et puis celle de Nairobi au Kenya.
C'est la première fois que Michel Djotodia rencontre François Bozizé.
C'est pour la première fois exactement. Donc tout le corps diplomatique accrédité à Nairobi était présent. Et Yori Museveni aussi a envoyé son vice-premier ministre. Et le médiateur international dans la crise centrafricaine, son excellence Denis Sassou Nguesso, aussi a envoyé son ministre d'État pour le représenter.
Maintenant, est-ce que ça signifie que les deux anciens chefs d'État seront présents au forum de Bangui ?
Mais c'est l'engagement qu'ils viennent de prendre. Et ce qu'ils disent dans leur plaidoirie, ils ont même clairement dit ils sont pour le forum inclusif de Bangui.
Mais est-ce qu'ils vont participer en personne ?
Ben, c'est ça, si les conditions se réunissent. Donc là, c'est à eux maintenant de répondre. Est-ce qu'ils vont participer ou pas ? Je ne saurais vous le dire.
Est-ce qu'on peut dire que maintenant la paix est scellée définitivement entre les ex-Seleka et les anti-Balaka ?
C'est le souhait de tout le monde. Vous savez, la paix, c'est la conjugaison des efforts de tout le monde. Donc, c'est pas l'affaire d'une seule entité. C'est le souhait ultime de tout le monde. D'ailleurs, dans la salle, tout le monde, c'était leur souhait. Le président Uhuru Kenyatta, qu'il avait dit tout au long de son discours, une paix durable en République centrafricaine et une paix pour l'Afrique. Donc, tout le monde est là, tout le monde nous témoigne dans ce sens-là pour nous accompagner. Et le peuple centrafricain meurtrit, a besoin de cette paix durable.
Mustapha Sabone, le coordonnateur politique de la CELECA, joint à Nairobi.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Janine Mabunda Lyoko Mudjahi, conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats, présentait ce mardi aux Nations Unies un rapport sur les mesures prises par le gouvernement congolais ces 6 derniers mois pour lutter contre ces fléaux qui ont beaucoup marqué la République démocratique du Congo. On l'écoute.
Du côté des poursuites, en fait, vous savez que c'était un des gros points faibles ou des reproches qui avaient été faits à la RDC, d'être un petit peu complaisante ou de ne pas être assez vigoureuse en matière de répression, donc des crimes de violence sexuelle. Je dirais que depuis que nous avons rejoint cette mission, en coalition avec le ministère de la Justice, l'état-major général de l'armée congolaise, nous avons en tout cas mis l'accent particulièrement là-dessus. Surtout au niveau de la justice militaire. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui étaient les plus cités, hein, en général, comme étant auteurs de violences sexuelles. Les forces de sécurité, les militaires. Et donc, il était temps de montrer l'exemple à ce niveau-là, parce que ce sont des serviteurs de la République. Donc, ils doivent être encore plus exemplaires, puisqu'ils servent sous le drapeau. Et ils ont donc une obligation de modèle et d'exemplarité. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons aidé, au travers de l'auditorat militaire, de tous les parquets militaires de la République, à une accélération des décisions de justice, à une intolérance vis-à-vis des cas de violences sexuelles. Et ça aboutit, en fait, notamment à ce que nous ayons 135 décisions de condamnation pour des cas de violences sexuelles de août 2014 au premier trimestre 2015. Ça aboutit notamment au fait que même les hauts gradés qui semblaient avant, en tout cas dans une certaine perception, être au-dessus de la loi, puissent être condamnés. Et ainsi, nous avons condamné le général Kiakwavu. C'est la première fois en RDC, peut-être même en Afrique, qu'on condamne un général pour des cas de violences sexuelles. Le dossier était très complexe parce que c'était un ancien seigneur de guerre. Il avait opéré ses crimes de violence dans des zones qui étaient anciennement sous occupation. Il a fallu 7 ans pour collecter les preuves. Au moment où il a commis le viol, les victimes avaient 12 et 13 ans, donc deux petites filles. Et 7 ans après, bien sûr, elles étaient devenues majeures, voulaient peut-être un peu plus de sécurité, de respect de leur vie privée. Mais leur mère était particulièrement engagée aux côtés du ministère public congolais. Et ça nous a permis donc de condamner à 10 ans de prison le général Kiakwavu et 100 000 $ de dommages et intérêts. Alors, nous avons aussi le cas, par exemple, dans la province du Kassai, qui est une province diamantifère, la condamnation du numéro 2 de la police pour séduction dolosive d'une petite fille de 15 ans. Et il a été condamné lui aussi à 10 ans de prison et des dommages et intérêts et révoqué de la police. Alors, de plus en plus, ce type de décision assoit évidemment le sentiment de justice et nous sommes très engagés sur cette question-là.
Est-ce que vous estimez disposer des moyens nécessaires pour faire votre travail ?
C'est une question qui est pertinente parce que effectivement, il faut savoir que les défis sont là. Il n'y a peut-être pas une réponse parfaite, mais en tout cas, avant les moyens, je pense que ce qui était très important, c'est surtout la volonté. Parce que les moyens ne viennent que quand il y a une volonté. Vous pouvez avoir tous les moyens du monde, mais s'il n'y a pas une appropriation nationale, une volonté politique du plus haut niveau vers le bas niveau et inversement, vos moyens ne serviraient à rien. Donc au moins, avant les moyens, nous avons cette volonté politique, cette appropriation nationale et cet engagement en fait de toute la nation au travers des institutions publiques.
Jeannine Mabunda Lyoko Mudjahi, jointe à New York par Camille Grodillier.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
aujourd'hui, VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.